Vous écoutez On lit pour vous.
Entre plaisir et défi, la participation culturelle et artistique des personnes en situation de handicap. Un texte d'Adèle Liliane Nguyen-Bencott, organisatrice communautaire en défense des droits, en collaboration avec trois membres de Mémo Québec, Evelyne Claire Ngepi, Marie-Julie Dion et Franco Deschênes, paru dans l'édition Été 2025, numéro 167 de la revue Paraquad. Les personnes en situation de handicap, PSH, font face à de nombreux défis au quotidien. Ces défis les privent ou du moins les limitent dans certains aspects de la vie, notamment la vie culturelle et artistique. Par exemple, il est très difficile pour une personne en fauteuil, et particulièrement une personne ayant une lésion à la moelle épinière, de faire une sortie culturelle. Elle doit organiser ses soins, s'assurer de l'accessibilité, réserver son transport adapté ou, pour celle qui a un véhicule, s'assurer de la disponibilité d'un stationnement réservé. Néanmoins, plusieurs d'entre elles ne se laissent pas démonter par ces obstacles. Nous avons interrogé trois membres de Mémo Québec qui vivent dans la grande région de Montréal et qui nous parlent de leurs sorties culturelles et des activités artistiques auxquelles ils ont participé. Des idées de sorties culturelles pour l'été. Evelyne Claire Nguépi, Marie-Julie Dion et Franco Deschênes aiment assister à diverses activités comme des spectacles, du théâtre ou encore visiter des musées. Ils aiment particulièrement aller dans les festivals, notamment Montréal Complètement Cirque, le Festival international de jazz de Montréal, les Franco de Montréal, le Festival international Nuit d'Afrique, le Cirque du Soleil, Trois-Rivières sur la scène extérieure, etc. Cependant, pour le Festival Montréal Complètement Cirque, il est déplorable que les corridors ne soient pas bien indiqués pour les personnes en situation de handicap. Parfois, la personne en fauteuil prend un chemin et se rend compte, une fois rendue au bout, qu'elle doit revenir sur ses pas pour prendre le bon. Ses membres aiment aussi aller à la Place des Arts à Montréal, car il y a de la place au fond pour les PSH. Il y a même de la place sur la scène. Par contre, il faut toujours appeler pour réserver ses places à l'avance, mais l'avantage est que les personnes à mobilité réduite y sont en sécurité. Les festivals des communautés culturelles les intéressent aussi. Ils se déroulent dans les parcs ou même dans les rues fermées. Ils sont gratuits et faciles d'accès. On peut y écouter de la musique et goûter la nourriture de diverses cultures. Les sorties au cinéma sont aussi intéressantes. Par contre, la qualité de l'expérience peut dépendre de l'endroit où on est placé et mieux vaut éviter l'avant car l'écran est trop proche et cela peut parfois déclencher des maux de tête. Les balades dans le Vieux-Montréal font partie de la liste de nos membres. L'un d'entre eux nous a dit qu'il a bien du plaisir à observer l'architecture des bâtiments et à les prendre en photo pour ensuite les visiter. Il va aussi à l'espace Montmorency à Laval et au Casino de Montréal pour voir des spectacles. Le stationnement est gratuit alors qu'il coûte 43 $ au Centre Bell. Les enjeux qui limitent les sorties. Plusieurs enjeux limitant les activités culturelles et artistiques ont été soulevés par ses membres, notamment les incontinences urinaires ou fécales qui les amènent souvent à se priver de ces sorties. Une personne qui n'a pas d'accompagnateur nous a dit parfois choisir de sortir et de revenir se coucher avec une couche mouillée de pipi pour ne pas déranger ses proches qui sont déjà endormis. Un autre enjeu est l'accessibilité des toilettes. Est-ce qu'il y en a une dans le lieu? Est-elle assez grande pour pouvoir y entrer avec mon fauteuil? Est-ce qu'elle sera fonctionnelle? Il arrive souvent qu'il y ait une seule toilette accessible et qu'elle ne fonctionne malheureusement pas au moment de vouloir l'utiliser. Une personne nous a mentionné aimer l'offre de concerts et de théâtre en après-midi, car elle y va en étant moins fatiguée et court moins le risque d'avoir une incontinence, comme c'est souvent le cas pour elle lorsqu'elle est trop fatiguée. Enfin, voici les suggestions que nos membres adressent au gouvernement pour lui permettre d'améliorer la participation des personnes en situation de handicap aux activités culturelles et artistiques. Le gouvernement doit informer les gens sur l'accessibilité des lieux, faciliter les transports, payer les accompagnateurs en dehors des heures de service courantes, car il n'y a pratiquement pas de spectacle qui se termine avant 21 heures. Placer les PSH dans une rangée au milieu durant les spectacles organisés à la Place des Arts à Montréal. À la Maison symphonique, retirer le banc au balcon et mettre une plateforme. Il faudrait aussi faire la même chose en bas et en avant. Au Centre Bell, offrir des places en permanence sur le parterre pour les PSH. Au cinéma, disposer de sièges pour faciliter les transferts latéraux et ne pas toujours asseoir les gens en avant ou en arrière. Rendre le Festival international de jazz de Montréal plus sécuritaire pour les PSH. Améliorer l'état des trottoirs. Améliorer l'accès aux toilettes sur le site des événements. Sur le site Internet du prestataire de l'événement, donnez les détails de la toilette accessible. Fauteuil manuel ou motorisé, personne ayant une canne, etc. Mettre plus de photos sur le site. En somme, de nombreuses embûches limitent les personnes à mobilité réduite dans leur volonté de s'adonner à des activités culturelles et artistiques. Cependant, la responsabilité de relever les difficultés ne doit pas incomber à ceux qui tentent d'y participer. Les instances gouvernementales et privées doivent aussi faire leur part pour que les personnes en situation de handicap soient totalement incluses dans notre société. Tous ces obstacles sont autant de preuves qui montrent la pointe de l'iceberg des nombreux défis auxquels ces personnes font face pour participer de façon pleine et entière à la vie culturelle et artistique du Québec. C'était « Entre plaisir et défi, la participation culturelle et artistique des personnes en situation de handicap », un texte d'Adèle Liliane Ngoumbendkot, paru dans l'édition Été 2025, numéro 167, de la revue Paraquad.
Les services essentiels en transport en commun, pourquoi et pour qui? Un texte de Stéphanie Marin, paru le 29 novembre 2025 dans Le Devoir. Lors de la grève des employés d'entretien de la Société de transport de Montréal, STM, en novembre 2025, les métros et autobus ont roulé aux heures de pointe. Mais pas lors de la grève des chauffeurs du réseau montréalais, pourtant tenue le même mois. Ni à Québec lors de moyens de pression exercés par des syndiqués du réseau de transport de la capitale, RTC, dans les dernières années. Et si un minimum de services, aussi appelés services essentiels, a été maintenu aux heures d'affluence, permettant aux Montréalais qui ont un horaire de travail classique de se rendre au boulot, il n'était d'aucune utilité pour bon nombre de travailleurs essentiels qui ont des horaires atypiques comme les infirmières. Bref, à quoi le maintien de services essentiels sert-il réellement et à qui? Plusieurs facteurs expliquent ces résultats différents, explique Anne-Julie Roland, professeure spécialisée notamment en droit des rapports collectifs du travail à l'Université de Montréal. Elle se rappelle d'entrée de jeu que le transport collectif est un service public au sens du Code du travail du Québec. Ainsi, la STM doit maintenir des services essentiels en cas de grève si celle-ci peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique. Il doit s'agir d'une menace évidente, imminente, réelle pour la population, pas un simple risque. C'est pourquoi l'on retrouve dans cette catégorie le système de santé et Hydro-Québec, qui permet de chauffer nos maisons en hiver, mais pas le domaine de l'éducation. Évidemment, cette obligation légale de maintenir des services essentiels est une restriction au droit de grève, qui est protégée par la Charte canadienne des droits et libertés. Pour que cette restriction soit justifiée, elle doit porter atteinte le moins possible à ce droit fondamental. Cet équilibre est susceptible d'être modifié, tout comme la jurisprudence, avec l'entrée en vigueur imminente de la loi 14 visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève. Un plan négocié par les parties. Dans certains conflits de travail, le syndicat et l'employeur négocient à l'avance un plan de maintien de service minimum qu'ils soumettent au Tribunal administratif du travail, TAT, pour approbation. Le Code du travail favorise la détermination des services essentiels par les parties elles-mêmes et le TAT donne du poids à l'entente qu'elles ont négociée, explique Mme Roland. Le TAT va notamment regarder le contexte de la grève, sa durée proposée et le moment où elle aura lieu. Dans le cas du transport en commun, l'un des facteurs souvent invoqués est le suivant. S'il est complètement à l'arrêt, la congestion routière qui en résultera, conséquence d'un plus grand nombre de personnes prenant leur véhicule, risque-t-elle de bloquer le passage aux véhicules d'urgence, comme ceux des pompiers et les ambulances? Lors de la plus récente grève des employés d'entretien de la STM, prévue pour 28 jours, un tel plan a été soumis. Il incluait le maintien du transport adapté et du service aux heures de pointe, matin, retour à la maison et fin de soirée, notamment parce qu'il s'agissait d'une grève de longue durée, rappelle la professeure. Le TAT a jugé que c'était suffisant. Quant aux chauffeurs d'autobus et de métro, ils avaient planifié une grève d'une seule journée, un samedi, sans maintien de service essentiel outre le transport adapté. Il a été soumis au TAT que cette grève entraînerait moins de congestion routière parce que moins de gens se rendent au travail le week-end. De plus, les déplacements de fin de semaine sont répartis sur l'ensemble de la journée et la moitié le sont pour des loisirs, ce qui a été déposé en preuve devant le TAT, qui a donné son aval au plan, rappelle Mme Roland. Différent à Québec. À Québec, dans le cas de deux grèves en 2023 et 2024 des syndiqués du RTC, aucune proposition n'avait été soumise au TAT, une différence avec les dossiers montréalais. Les employés ne reconnaissaient pas la nécessité de maintenir un minimum de services, alors que l'employeur l'exigeait. Le TAT s'est donc basé sur la preuve soumise, de nombreuses pages de preuves, de témoignages, d'expertises et de simulations de congestion routière. Il a notamment évalué dans quelle proportion l'augmentation du trafic aurait un impact sur le passage des véhicules d'urgence. Cette preuve a mené le juge à déterminer que l'absence de transport collectif allait certes déranger, importuner, voire chambarder les habitudes, mais ne poserait pas de danger pour la population. À Montréal, il serait plus surprenant qu'il n'y ait pas de service à maintenir, car il s'agit d'une grande ville où il y a beaucoup de circulation, analyse Mme Roland. Et les travailleurs essentiels? Pourquoi, à Montréal, le service a-t-il été maintenu aux heures de pointe plutôt que de s'adapter aux horaires atypiques des travailleurs essentiels, tels que ceux du réseau de la santé? Bref, pourquoi maintenir des services essentiels qui ne bénéficient pas à un autre service essentiel? Les services offerts lors de la dernière grève étaient liés aux heures de bureau, mais pas pour accommoder ces travailleurs. C'est parce qu'ils sont plus nombreux et donc plus susceptibles de causer de la congestion. L'objectif était de désengorger le réseau routier, explique Anne-Julie Roland. Elle ajoute qu'un hôpital aurait pu présenter au TAT une preuve prépondérante indiquant que la grève aurait un effet direct sur la capacité du système à maintenir des soins de santé, ce qui n'a pas été fait. L'organisme communautaire Multicaf l'a tenté. Il a fait valoir que la grève empêcherait ses bénéficiaires d'aide alimentaire de se nourrir. Le TAT a toutefois estimé qu'il s'agissait d'une difficulté pouvant se régler, par exemple, par des heures modifiées d'ouverture. Anne-Julie Roland rappelle qu'outre la grève, les syndicats n'ont pas beaucoup de moyens de faire pression sur leur employeur de façon percutante, d'où la protection de ce droit constitutionnel. C'était les services essentiels en transport en commun, pourquoi et pour qui? Un texte de Stéphanie Marin, paru le 29 novembre 2025 dans Le Devoir.
Les hypertrucages sur X montrent le besoin de réglementation selon des groupes. Un texte de la presse canadienne publié le 12 janvier 2026 dans la presse. Des groupes de défense des femmes et des enfants soutiennent que la récente vague d'hypertrucage sexuel sur le réseau social X montre que le gouvernement doit créer un organisme de réglementation numérique. Cela souligne l'importance d'une réglementation au Canada dans ce domaine et nous devons agir rapidement afin de pouvoir traiter adéquatement ce type de problème lorsqu'il se présente, a avancé Lloyd Richardson, directeur des technologies au Centre canadien de protection de l'enfance. Monsieur Richardson et Roselle Kim, avocate principale au Fonds d'action et d'éducation juridique pour les femmes, ont tous deux plaidé pour la mise en place d'un organisme de réglementation numérique, similaire à celui proposé par le gouvernement libéral en 2024. Madame Kim a expliqué qu'un organisme de réglementation spécialisé, doté de pouvoirs de réglementation et d'application de la loi, pourrait lutter contre la violence sexiste facilitée par la technologie en offrant des recours juridiques, un soutien direct, de la recherche et de la sensibilisation. Ces dernières semaines, la prolifération d'hypertrucages à caractère sexuel créés par l'agent conversationnel d'Elon Musk, Grok, a déclenché une vague de réactions négatives à l'échelle mondiale. Ces hypertrucages visaient principalement les femmes et, dans certains cas, les enfants. Bien que la technologie permette de créer des hypertrucages à caractère sexuel ne soit pas nouvelle, X l'a rendue facilement accessible en autorisant les utilisateurs à demander à Grok de modifier des images directement sur la plateforme. Cette fonctionnalité est désormais réservée aux utilisateurs payants. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a indiqué que permettre la diffusion d'hypertrucages était un comportement impensable et a averti que si la Silicon Valley ne réagissait pas, l'Europe le ferait, a rapporté Politico lundi. La Malaisie et l'Indonésie ont annoncé en fin de semaine qu'elles bloqueraient l'accès à Grok et une interdiction est également envisagée au Royaume-Uni. Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, Evan Solomon, a déclaré dimanche que le Canada n'envisageait pas d'interdire X, une idée qui a été évoquée au Royaume-Uni. La décision de M. Solomon a été saluée par M. Musk sur X, qui a partagé un message à ce sujet et y a ajouté un drapeau canadien et une émoticône en forme de cœur. Le gouvernement libéral a présenté la loi sur les préjudices en ligne en 2024. Entre autres mesures, ce texte aurait imposé un délai de retrait de 24 heures pour les contenus qui victimisent sexuellement un enfant ou revictimisent une victime, ainsi que pour les contenus intimes partagés sans consentement, y compris les hypertrucages. Le projet de loi prévoyait également la création d'une commission de la sécurité numérique chargée d'administrer et de faire appliquer la loi, ainsi que la nomination d'un ombudsman pour soutenir les utilisateurs des médias sociaux. Il n'a pas été adopté avant le déclenchement des élections de 2025. Une porte-parole du ministre de la Culture, Mark Miller, n'a pas répondu directement à la question de savoir si le gouvernement comptait déposer de nouveau ce projet de loi. Si l'intelligence artificielle offre d'immenses possibilités, elle présente aussi de réels défis. C'est pourquoi notre gouvernement s'attache à établir un cadre solide et systémique pour la sécurité et la gouvernance de l'IA et s'engage à agir rapidement pour mieux protéger les Canadiens et en particulier les enfants contre les préjudices en ligne, a souligné Hermine Landry. Un projet de loi déposé par le gouvernement à la fin de l'année dernière criminaliserait les hypertrucages à caractère sexuel, mais les défenseurs des droits estiment que cela ne suffira pas à régler le problème. Un porte-parole de M. Solomon a indiqué dimanche que des discussions étaient en cours avec les gouvernements alliés et les différents ministères canadiens. Les femmes particulièrement touchées. Madame Kim a affirmé que les femmes qui ont dénoncé ce problème se retrouvent de plus en plus souvent la cible d'hypertrucage. Les femmes et les personnes de diverses identités de genre sont touchés de manière disproportionnée, ce qui les pousse à se taire, a-t-elle précisé. Cela porte gravement atteinte à leur liberté d'expression et à leur capacité de participer à la vie publique, car il semble que la seule solution réellement efficace soit de rendre son compte privé, a-t-elle ajouté. Suzy Dunn, professeure adjointe de droit à l'Université Dalhousie, a indiqué avoir entendu certains affirmer que les femmes ne devraient tout simplement pas publier de photos en ligne. Parce qu'il s'agit d'un problème clairement lié au genre, on dit en substance aux femmes de se taire et de rester à leur place. Et je pense que c'est un problème très grave auquel les gouvernements doivent accorder une attention particulière, a-t-elle déclaré. Madame Dunn a précisé que parmi les juridictions dotées d'une législation sur la sécurité en ligne figurent l'Union européenne, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Certains pays, comme la France et le Royaume-Uni, proposent des lignes d'assistance téléphonique aux personnes victimes de cyberharcèlement. Ici, au Canada, lorsqu'une personne subit ce genre de préjudice, il existe très peu de ressources spécifiques où elle peut obtenir de l'aide en décrochant son téléphone, a-t-elle mentionné. Le Canada présente d'importantes lacunes législatives, mais aussi d'importantes lacunes en matière de services sociaux permettant aux gens d'obtenir le soutien approprié, a-t-elle fait savoir. C'était « Les hypertrucages sur X montrent le besoin de réglementation selon des groupes », un texte de la presse canadienne publié le 12 janvier 2026 dans la presse.
L'ADN patrimonial du Petit Champlain, un texte de Dave Noël paru le 12 novembre 2025 dans Le Devoir. La rue du Petit Champlain apparaît sur les cartes de Québec dès le milieu du 17e siècle. Son tissu urbain, que l'on associe spontanément à la Nouvelle-France, est le résultat d'un empilement complexe de reconstruction et de mise au goût du jour de ses façades. La datation de ces immeubles est un défi, comme l'a constaté Le Devoir. S'il y a un morceau du 17e siècle dans le quartier, c'est dans les fondations de quelques bâtiments, lance l'historien de l'architecture Luc Noppen en entrevue. Pour le reste, c'est essentiellement un paysage typique des années 1850. L'élément le plus ancien du Petit Champlain est sous nos pieds. Il s'agit de son tracé étroit s'étirant sur 250 mètres à partir du bas de l'escalier casse-cou. Ce qui est vraiment français à Québec, c'est la trame urbaine, le parcellaire sur lequel on a souvent construit des maisons à l'anglaise, observe Luc Noppen. Piste. La rue du Petit Champlain n'était à l'origine qu'un modeste sentier longeant le bas de la falaise du Cap au Diamant. Cette piste reliait l'habitation du fondateur de Québec, Samuel de Champlain, à une source qui se trouverait aujourd'hui dans les parages du théâtre Petit Champlain. L'embryon du quartier s'est développé autour de l'anse du cul-de-sac, un havre servant au déchargement des marchandises. L'aménagement d'un chantier naval sur ses berges à la fin des années 1730 a accéléré la densification de son cadre bâti coincé entre le fleuve Saint-Laurent et la falaise. Cet élan maritime a été interrompu à l'été 1759 par le bombardement britannique de Québec qui a dévasté l'essentiel de la basse ville. La remise en état des bâtiments criblés de boulets et d'éclats de bombes s'est étirée jusqu'au milieu de la décennie suivante. La réutilisation des fondations et des murs coupe-feu imposant des immeubles du Petit Champlain complexifie leur datation. C'est le cas de la maison de Mers, une demeure de 1689 dont les structures internes en bois ont été entièrement reconstruites autour de 1764. Quand on dit qu'un bâtiment date de telle époque, c'est la lecture qu'on en fait, souligne Luc Noppen. Il y a l'âge réel et l'apparence d'âge, et c'est ça qui fait le patrimoine. Selon le spécialiste, il n'y aurait plus de maisons du 17e siècle dans le périmètre de Québec, à l'exception peut-être d'une partie de la maison Jacquet sur la rue Saint-Louis. La ville a été refaite après les bombardements de 1759 qui ont pour l'essentiel incendié les boiseries et les charpentes. Le quartier du Petit-Champlain était enserré entre la falaise du Cap-Diamant et l'anse du cul-de-sac, que l'on aperçoit à marée basse sur le plan relief de Québec parachevé en 1808 par le cartographe Jean-Baptiste Duberger. Pigeon. Le remodelage en profondeur des bâtiments du Petit-Champlain s'est poursuivi dans la seconde moitié du 19e siècle par une série de rehaussements complétés par l'ajout de toits mansardés recouverts de tôles à la canadienne. Des toits plats ornés de corniches ont ensuite fait leur apparition. « On ne peut pas balayer sous le tapis toutes les additions », affirme Luc Noppen. « Le patrimoine, c'est la représentation qu'on se fait d'un quartier, d'un immeuble. C'est alimenté par l'histoire, mais aussi par la confusion de l'histoire. Si la ville était restée comme elle était à ses débuts, ça ferait longtemps qu'elle ne serait plus là. » Certains bâtiments ont été fusionnés. C'est le cas des immeubles de Perfection Corset, une manufacture de lingerie féminine fondée en 1922. Un couloir entrecoupé de portes coupe-feu témoigne de ce regroupement invisible de la rue. Le déclin de Perfection Corset dans les années 1960 a coïncidé avec celui du quartier. L'acquisition de cette manufacture désaffectée remplie de fientes de pigeons par Gérard Paris et Jacques de Blois en 1976 est devenue le point de départ de la renaissance de cette artère unique à l'architecture bigarrée. C'était l'ADN patrimonial du Petit Champlain, un texte de Dave Noël paru le 12 novembre 2025 dans Le Devoir.